Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3. Et nous allons lire du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre. 2 Pierre, chapitre 3. Nous lisons donc à partir du verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous arrivons donc à la fin de cette lettre et ce matin, nous allons nous concentrer donc sur les versets 15 à 18, où l'on va relever les différents points suivants. Tout d'abord, au verset 15, l'apôtre Pierre nous rappelle et nous invite à considérer le temps dans lequel nous vivons comme un temps de salut. Ensuite, versets 15 à 16, Pierre nous rappelle que Paul a aussi enseigné ces choses et que les lettres de l'apôtre Paul ont la même autorité que les écrits de l'Ancien Testament. Ensuite, verset 16, Pierre souligne que le fait que les lettres de Paul soient inspirées ne veut pas dire qu'elles soient toutes faciles à comprendre. Et puis encore une fois, au verset 16, on va aussi voir que la mauvaise interprétation, et en particulier la mauvaise interprétation volontaire de l'Écriture, peut conduire à la ruine. Et ensuite, versets 17 et 18, la conséquence de cela, gardez-vous de l'erreur et de la destruction et de la ruine en grandissant, en croissant dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, en conclusion, rappelez-vous que le but principal de Dieu pour nous, pour notre vie, c'est que Jésus-Christ soit glorifié et tout contribue à atteindre cet objectif. Voilà les différents points que nous voulons voir ce matin. Et donc, premier point, verset 15, le temps dans lequel nous vivons est un temps de salut. Et Pierre continue en fait le thème qu'il avait déjà abordé au verset 9 de ce même chapitre. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et Pierre donc nous exhorte à considérer, à réfléchir sur ce temps que nous vivons comme un temps de salut avant le retour de Christ. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. L'homme, aujourd'hui, Quand on voit l'histoire, il a toujours cherché à donner un sens, à donner une cohérence à l'histoire. Et il va diviser l'histoire en périodes, en âges. On parle du Moyen Âge, on parle de la période de la Renaissance, on parle de l'âge des Lumières, on parle de l'âge de la Révolution industrielle. Mais quand l'homme décrit l'histoire, il met bien sûr l'homme au centre. Et il parle de ce que l'homme a pu accomplir et de ce que l'homme a pu faire. Et c'est ce qui détermine le sens de l'histoire selon le monde. Mais ce n'est bien sûr pas la vision que doit avoir l'Église, que doit avoir le peuple de Dieu. Nous devons apprendre à voir l'histoire comme Dieu voit l'histoire. Et ce verset 15, donc, est un rappel de la manière dont on est appelé à voir l'histoire, le temps que nous connaissons, le temps que, dans lequel nous vivons, qui va de la venue de Christ et de son ascension dans la gloire jusqu'à son retour dans la gloire. C'est avant tout, comme le dit Pierre, un temps de salut. Ce qui marque, ce qui marque cette période, ce n'est pas la Renaissance, ce n'est pas la Révolution industrielle, ce n'est pas le développement de la science. Ce qui compte, c'est que c'est avant tout un temps de salut. Jésus-Christ est venu. Il a ouvert la voie, le chemin vers Dieu. Il a cette voie est encore ouverte jusqu'à son retour. Et Dieu, comme Pierre nous le rappelle, use de patience. Nous voulons pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Toutes les brebis de son troupeau sont appelées à entrer dans la bergerie. Et pas une ne va manquer à l'appel. Et ce temps dans lequel nous vivons est ce temps de salut. C'est 2000 ans depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde, ces 2000 ans qui ont vu des changements, qui ont vu des développements technologiques, des développements techniques et tout cela. Mais du point de vue ou de la perspective de l'éternité, tout cela sera insignifiant devant le fait que ce temps est un temps de salut. Des âmes sont sauvées, des pécheurs viennent à la repentance, sont réconciliés avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et la seule chose vraiment qui a de la valeur, c'est l'histoire des missions et des vies du peuple de Dieu qui vivent dans la vérité, qui vivent dans la sainteté, qui sont véritablement cette lumière dans un monde de ténèbres, les seules biographies qui ont de la valeur, qui ont véritablement une valeur éternelle, si on peut utiliser ce terme, sont les biographies des croyants, du peuple de Dieu, de ceux qui savent que ce temps est un temps de salut, un temps de grâce, un temps où l'Évangile est encore annoncé et où l'invitation retentit encore dans ce monde pour des pécheurs, pour venir à Christ et connaître la paix, la réconciliation avec Dieu. Et là, c'est la première chose donc, que Pierre nous invite à voir, à considérer l'histoire, à considérer le temps dans lequel nous vivons. On parle d'âge numérique ou le développement des technologies numériques. Effectivement, c'est la réalité dans ce monde, mais voyons cela aussi comme étant un temps où le salut est encore annoncé, ou l'évangile est annoncé, ou l'invitation peut encore être proclamée. C'est comme cela que nous devons voir l'histoire, la période dans laquelle nous vivons. La deuxième chose que nous voyons dans les versets 15 et 16, c'est donc que Pierre va mettre les lettres de Paul. Tout d'abord, il parle du fait que Paul parle aussi de ces choses, mais ensuite que les lettres de Paul ont la même autorité et la même inspiration que l'Ancien Testament. Verset 15. « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » En Romains chapitre 2, Paul lui-même écrit ceci au verset 4. « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Les deux, Pierre et Paul, enseignent que le fait que Dieu retient son jugement, qu'il use de patience, doit être vu, considéré comme un acte de bonté, de longanimité. Un acte, un moment où Dieu accorde le temps encore pour la repentance, pour le salut. Paul lui-même rajoutera un peu plus loin en 2 Corinthiens 6, verset 2, il dit « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Les deux, Pierre et Paul, ont ce même enseignement de considérer la patience de Dieu comme étant une opportunité encore pour la repentance, pour la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et puis Pierre, donc, met les lettres de Paul avec les autres Écritures, verset 16. C'est ce qu'il fait, ce que Paul fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures. Et on a ici donc un aperçu important. Jésus-Christ lui-même considérait les Écritures de l'Ancien Testament ayant une pleine autorité, étant pleinement inspiré par Dieu, ayant cette autorité. Quand il dit par exemple en Matthieu 5 et verset 17, il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Et puis ensuite il met en garde « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » La loi, la parole de Dieu, l'Ancien Testament, ne passera pas. Elle est, il le dira plus loin en Marc 7, elle est la parole de Dieu. Et Pierre lui-même, nous l'avons vu dans le premier chapitre, a enseigné que c'est l'Esprit lui-même qui a parlé, qui a inspiré, et qui a poussé des hommes à écrire, non pas de leur propre volonté, mais c'est l'Esprit qui le fait. Quand donc Pierre met les lettres de Paul dans la même catégorie que les écrits de l'Ancien Testament, il affirme, en fait, qu'elles ont la même inspiration et qu'elles ont la même autorité. Paul lui-même l'avait écrit en 1 Corinthiens 2 et au verset 13, quand il écrit « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Nous en parlons, dit Paul, avec des discours qu'enseigne non pas la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Et c'est la raison donc pour laquelle la parole de Dieu, la Bible, tient une place centrale dans la vie chrétienne. C'est pour ça que nous la lisons, c'est pour ça que nous la méditons, c'est pour ça que la prédication occupe une place importante dans la vie de l'Église, parce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est inspirée par l'Esprit de Dieu lui-même. Elle est notre guide, elle est notre juge, elle est notre référence, elle est cette révélation de Dieu. Et c'est bien sûr tout ce que le psalmiste écrit dans le premier psaume. Il parle de cette attitude du croyant, heureux l'homme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. La parole de Dieu est au centre de la vie du croyant et de l'Église. Et donc les écrits de l'apôtre Paul et de l'ensemble du Nouveau Testament sont mis dans la même catégorie que les écrits de l'Ancien Testament, sont regroupés dans ce même grand livre que nous appelons la Bible, qui est inspirée de Dieu. Et plus nous lisons ce livre, plus nous méditons ce livre, plus nous apprenons à connaître ce livre, plus nous apprenons aussi à voir les choses comme Dieu les voit. Et nous avons encore eu un rappel ce matin, lorsque le psalmiste dit que tout homme, que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu et qu'il n'y a point de juste, comme le dira l'apôtre Paul, et c'est la réalité. Et nous acceptons cela parce que Dieu nous a ouvert les yeux et nous fait accepter ce constat que par nature, nous ne pouvons rien et que nous avons tout en Christ. La Bible, donc, est au centre. Toute l'Écriture, comme le dira Paul à Timothée, est inspirée de Dieu. La troisième chose que nous avons dans ce verset 16, c'est que le fait que l'Écriture, et en particulier que les lettres de Paul soient inspirées, ne veut pas dire qu'elles sont forcément faciles à comprendre. Il reste des difficultés. L'apôtre Pierre le mentionne quand il dit ici au verset 16, c'est que Paul fait dans toutes ses lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. C'est une réalité. Il y a des points difficiles à comprendre. Et si on veut, on pourrait faire tout un message sur ce verset et on pourrait simplement faire ressortir les points suivants. C'est que, d'une part, les Écritures étant inspirées révèlent la pensée de Dieu, mais la pensée de Dieu étant bien plus grande que la nôtre, parfois on la considère comme complexe, comme étrange, comme difficile. Et donc, c'est pourquoi les Écritures apparaissent parfois comme étant étrange, comme étant difficile à comprendre. Le danger, bien entendu, c'est de sélectionner uniquement ce qui est facile, et ce serait une erreur, ce serait néfaste à la vie de l'Église. Rappelons-nous ce que l'apôtre ou l'auteur de la lettre aux Hébreux a écrit au chapitre 5 et au verset 13. Il dit « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Mais lire, méditer ou prêcher tout le conseil de Dieu sera parfois difficile et demandera des efforts, mais aussi de l'humilité, de reconnaître que nous sommes limités dans notre compréhension et que nous avons besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu. Il y a des points difficiles dans la parole de Dieu. Mais la quatrième chose que nous dit l'apôtre Pierre, c'est que une fausse interprétation volontaire peut mener à la ruine. Verset 16. Il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Jacques va le dire différemment en s'adressant en particulier à l'Église et à ceux qui veulent enseigner. Il dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » La destinée éternelle ou la vie de l'Église dépend de la manière dont l'Écriture est interprétée. Et Pierre ici parle donc de personnes ignorantes, de personnes mal affermies, qui tordent le sens des Écritures. Ce sont ces personnes que les faux docteurs, les faux enseignants dont nous avons déjà fait référence les fois précédentes, ce sont ces personnes-là que les faux docteurs ont réussi à déstabiliser. Et cette lettre, nous l'avons déjà dit, a été écrite pour nous mettre en garde contre ce piège, contre ces erreurs, l'erreur de ces faux docteurs. Mais le cinquième point suit le quatrième, versets 17 et 18. Gardez-vous de l'erreur. Comment pouvons-nous être ou nous garder de l'erreur? L'apôtre le dit au verset 17, « Vous qui êtes avertis. » Et tout au long de sa lettre, rappelez-vous ce qu'il a dit au début. Il dit qu'il ne cesserait de nous rappeler ces choses. Au chapitre 1, verset 12, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Je regarde comme un devoir de, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Et ici, il revient, il nous rappelle, vous qui êtes avertis, l'antidote à la destruction, à la ruine, l'antidote à l'erreur, c'est de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme, pour reprendre l'image du psalmiste au psaume 1, cette différence entre un arbre qui ne grandit pas, dont les racines ne sont pas profondes et qui perd sa stabilité, qui est renversé par les vents de fausses doctrines, et qui meurt. Et puis un autre arbre qui garde ses racines, qui plonge ses racines dans la grâce de Dieu, qui grandit, qui est stable et qui peut faire face à tous les orages, à toutes les épreuves, qui n'est pas renversé par tout courant, toute fausse doctrine, mais qui se tient debout sur la grâce et par la grâce de Dieu. On retrouve ce langage du verset 18 dans le verset 2 du premier chapitre, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. » Pierre veut que nous nous nourrissions de cette grâce, le meilleur fertilisant pour notre espérance de la gloire, pour notre vie ici-bas, c'est la connaissance de Dieu, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, la connaissance de ce que nous avons en Christ et de l'avenir qui nous est réservé en Christ. Pierre a commencé comme cela, au chapitre 1, verset 2, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. » Et il termine de la même manière, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. » Nous avons besoin de puiser dans cette grâce, de compter sur les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ, de prendre conscience aussi que ce monde dans lequel nous vivons est appelé à disparaître. C'est ce que nous avons vu la dernière fois, le rappel que Pierre fait à ses faux docteurs, qu'un jour Jésus-Christ reviendra pour juger ce monde, et ce monde avec ses œuvres sera détruit, et nous attendons la promesse d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Tout sera rendu parfait et nous aurons tout, nous serons nous-mêmes rendus parfaits et nous serons libérés de nos craintes, libérés de nos convoitises, libérés de tout ce qui nous amène à chuter. Pierre nous exhorte donc à puiser et à nous nourrir de cette grâce. Et le message donc de l'apôtre Pierre, de cette deuxième lettre de l'apôtre Pierre, c'est qu'en considérant l'avenir, l'espérance du retour du Seigneur Jésus-Christ, ce que nient bien sûr ces faux docteurs, mais pour nous c'est une espérance glorieuse. La joie du retour de notre Seigneur Jésus-Christ est le moteur pour une vie de sainteté. Nous attendons, comme nous avons vu la dernière fois, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et la connaissance, le fait de connaître ces choses, le fait de tenir ces choses dans notre mémoire, de les garder en tête, de réaliser que nous ne sommes que de passage sur ce monde. La connaissance de ces choses nous gardera aussi et nous évitera de tomber et de penser comme le monde pense ou de vivre comme le monde vit. Croissez, nous dit l'apôtre Pierre, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que nous avons tout en lui. Nous avons tout, comme nous l'avons vu la dernière fois lorsque l'apôtre Pierre nous exhorte à nous appliquer, à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. Nous ne pouvons le faire que parce que nous avons tout reçu de la part de Dieu en Christ. Et c'est uniquement en Christ que nous pouvons vivre, que nous pouvons tenir et que nous pouvons grandir et vivre pour sa gloire. Et puis comme nous avons tout en Christ, l'apôtre Pierre termine « À lui soit la gloire ». Maintenant, dans notre vie terrestre, dans notre pèlerinage dans ce monde, dans notre vie de tous les jours, à lui soit la gloire, parce que c'est en lui que nous avons tout. C'est vrai donc aujourd'hui, mais c'est aussi vrai pour l'éternité. Et c'est le chant que nous chanterons dans la gloire. À l'agneau soit la gloire et la louange, parce qu'il a été immolé, parce qu'il s'est donné pour nous. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs, qui nous aide à la comprendre et à la vivre pour sa gloire.